J'espère que vous pouvez être dans la joie et la paix du Seigneur par sa grâce. Il y aurait bien des façons de résumer l'Évangile selon l'angle que l'on souhaite mettre en avant. Et ce matin, j'utiliserai bien le résumé « Tout est grâce ». Ça a été évoqué déjà pendant la première partie du culte, cette notion de grâce. Tout est grâce. L'Évangile nous présente en effet la libre grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. En tout cas, gardons cela en tête pour la suite, non seulement de la prédication, mais carrément de nos vies. Tout est grâce, tout est cadeau de la part de Dieu, si nous voulons bien les saisir. Et même si ça peut surprendre, c'est avec ce résumé que je souhaite poursuivre la réflexion et l'encouragement apporté par Jean-Paul il y a une quinzaine de jours, non, il y a 14 jours, pour être précis, et qui portait sur, quelqu'un se souvient ou quelqu'un a écouté la prédication après coup, il y a Pedro qui me fait des signes, lui là, il se souvient. Moi, j'étais pas là, mais j'ai écouté après coup l'enregistrement qu'on trouve sur le site internet de l'Église. Si tu mets la première diapositive, justement, Pedro, il avait parlé d'édification. D'édification, de faire la maison. Ou dans la déclinaison biblique, de construire l'Église qui est maison de Dieu. Une maison qui a différentes tailles possibles, ça c'est moi qui la précise, selon qu'on la considère dans sa dimension locale et jusqu'à sa dimension universelle. Et je rajoute aussi que l'édification, faire la maison, peut aussi se décliner à l'échelle individuelle, au niveau de chaque chrétien qui est aussi maison de Dieu. Bref, un thème riche et majeur, je pense, que celui de l'édification. Et dans le projet de Dieu, il y a effectivement une volonté affirmée de sa part de nous édifier, de nous construire. Chacun individuellement, en tant que temple du Saint-Esprit, en tant que demeure de Dieu, jusqu'à ressembler au Seigneur Jésus, jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, pour reprendre l'expression de certains versets bibliques. Ambitieux, hein ? Ambitieux mais magnifique projet de Dieu, un projet de transformation qui est évidemment une grâce de Dieu pour moi et une grâce de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Et j'espère que nous le comprenons et le vivons comme cela. Et dans le projet de Dieu, il y a aussi volonté affirmée de sa part de nous construire collectivement, jusqu'à faire de nous, en tant que communauté, en tant que famille de Dieu, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, un édifice bien coordonné, une maison commune à la gloire de Dieu. Une construction, et Jean-Paul a utilisé ce terme la dernière fois, reprenant un terme biblique transformé en français, symphonie, un édifice qui montre une symphonie, une belle cohésion et cohérence entre les différents éléments qui la composent. Oui, Dieu veut faire cela par grâce pour nous tous. J'espère que nos yeux s'illuminent un peu, que nos cœurs palpitent à l'évocation de ce grandiose projet divin dans lequel Dieu lui-même nous a invités, ou nous invite encore si nous n'avons pas encore fait ce pas, et où il nous a inclus. Nous avons effectivement placé notre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Pas d'autre condition que celle-là. Et j'espère que la reconnaissance bouillonne en nous, envers Dieu, pour cette bonté, cette bienveillance, cette générosité pour nous. Ce projet d'édification n'est pas banal, pour le moins. Et qui bâtit la maison ? Questionnait aussi Jean-Paul. Dieu, Christ, d'abord et surtout, bien sûr, et vous, et moi aussi, complétait-il dans sa réponse. Oui, en effet, pour ce projet, Dieu compte sur nous. Il compte nous impliquer, il nous invite à nous impliquer pour nous-mêmes et pour les autres, à être volontaires. Étonnant, mais aussi extraordinaire, je trouve, n'est-ce pas ? Encore une grâce surprenante de la part de Dieu pour nous. Et pour un peu cadrer ce projet-là, je propose de lire deux passages ce matin, deux extrêmes peut-être, mais qui, je l'espère, nous permettront de mieux cerner le divin projet et notre place dans ce divin projet, dans ce cadre général de la grâce. Premier passage dans l'évangile de Luc, qui nous rapporte quelques paroles de Jésus. Évangile de Luc au chapitre 17, et je lis les versets 7 à 10. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous « Viens vite, assieds-toi à table ». Ne lui direz-vous pas plutôt « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir ». Jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire, ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il lui a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non ! Verset 10. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Passage particulièrement édifiant, non ? Pourtant, c'est une parole de Jésus. Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Retenons cela et lisons dans la foulée l'autre passage. Tiré de la première lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe, 1 Corinthiens 3, versets 3 à 10. Quand il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel ? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas comme les autres humains ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs ! Et à la lumière du passage de Luc qu'on vient de lire, je rajouterai des serviteurs sans mérite particulier. Par le moyen desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, de Dieu nous sommes collaborateurs. De Dieu vous êtes le champ, de Dieu vous êtes l'édifice. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. La lecture de cette lettre aux Corinthiens, on voit facilement que les chrétiens de cette ville, l'église de Corinthe, n'a pas été un édifice facile à construire. Et c'est peu de le dire. Et on trouverait facilement bien d'autres exemples. Ici, Paul évoque des problèmes de parti pris, de division partisane. Et il y a assurément plein de mises en garde, plein de leçons à apprendre de cette lettre particulière. Mais mon objectif ce matin n'est pas de considérer ces sujets-là, mais plutôt ces mentions de juste être serviteur. Juste être serviteur, humblement, mais également être fier, mais surtout reconnaissant d'aussi être collaborateur de Dieu. C'est ce que dit Paul, collaborateur de Dieu. D'autres traductions auront ouvrier avec Dieu. Les collaborateurs de Dieu, ce sont ceux qui travaillent avec Dieu, ceux qui coopèrent avec Dieu. Rien de moins que ça. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Je vois que mes questions sont embêtantes. Hein. Paul dit en tout cas qu'il a fait sa part de travail selon la grâce de Dieu qui lui a été accordée. Dans ce commentaire, la Bible du Semeur est un peu réticente à cette interprétation et à utiliser ces mots-là de collaborateur de Dieu. Peut-être qu'il la trouve trop prétentieuse. Comment oserions-nous nous dire collaborateurs de Dieu ? Comment pourrions-nous nous croire ouvriers avec Dieu ? Si je reprends le genre de questions qu'il y a eu dans le dernier chant qu'on a pris tout à l'heure. En fait, comme Paul dit la même chose de Timothée dans une autre lettre, Timothée, notre frère, collaborateur de Dieu pour l'évangile de Christ, collaborateur de Dieu pour la bonne nouvelle du Christ, si on traduit le mot évangile. Même si la formulation de ce verset dans certains manuscrits grecs peut différer, je crois sans prétention aucune que c'est bien ce que nous dit l'Écriture, que c'est ce que nous dit Dieu, inspirant l'apôtre Paul. Les chrétiens, au privilège incroyable, et j'espère source de reconnaissance intarissable, sont des collaborateurs de Dieu. À mon avis, ce n'est pas gênant de le comprendre ainsi si Dieu a choisi d'en faire une autre merveilleuse conséquence de la croix. Pourvu bien sûr que l'on n'oublie pas que c'est encore pure grâce de sa part et que l'on n'oublie pas d'autres passages du message biblique. Car esclave de Dieu, serviteur de Dieu, c'est vrai, je le suis aussi. Je le suis aussi. Alors je ne l'oublie pas, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, je suis également collaborateur de Dieu. On monte en grade, je ne sais pas si on dit comme ça, on monte dans l'échelle, pas du tout. Mais il y a ces deux vérités-là. Collaborateur avec Dieu, ouvrier avec Dieu. C'est vous dire le statut tout spécial, je crois, que le chrétien a obtenu de la part de son divin maître. C'est vous dire le statut tout spécial que les chrétiens ont aux yeux de Dieu, leur Père céleste également. Pour aider à cerner cela, je lis deux autres versets. Un où Paul écrit encore aux chrétiens de Corinthe dans une autre lettre, où il dit « Notre rôle n'est pas de dominer sur votre foi, mais de collaborer ensemble à votre joie. » En tant qu'apôtre, en tant qu'éminent prédicateur et théologien, Paul pourrait facilement dominer sur ces chrétiens peu matures de Corinthe. Mais non, pas du tout. Son rôle et son but et de collaborer ensemble. Le même mot que dans notre passage. Et même infiniment plus, Dieu pourrait facilement et légitimement dominer sur nous. En tant que Dieu, que tout-puissant, qu'éternel, en tant que Seigneur et Maître. Oui, il pourrait, c'est sûr. Mais il a choisi de faire de nous ses collaborateurs. Il a préféré nous inclure dans son œuvre et nous rendre partie prenante de son œuvre. C'est fou ça, non ? Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, dira aussi l'apôtre Jean. Et si je paraphrase ce verset, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés collaborateurs de Dieu. Et nous le sommes. Je vois vraiment là un statut privilégié, spécial, et une belle expression de la grâce de Dieu pour nous. Une belle expression de son amour pour nous. À ceux qui se surestiment un peu, et pourraient se vanter d'être collaborateurs de Dieu, le Seigneur dit, n'oublie pas, tu suis un serviteur sans mérite, même un simple esclave. Bien que je reconnaisse que le mot esclave est très connoté, le terme est biblique. En tout cas, voilà de quoi nous garder humbles. Et à ceux qui se sous-estiment quelque peu et se déprécient trop souvent en se disant toujours inutile ou bon à rien, voire même moins que rien, ou quand d'autres leur disent trop souvent, à tort, le Seigneur dit aussi, n'oublie pas, tu es un collaborateur de Dieu, tu es ouvrier avec moi, tu es même mon enfant, si je rajoute la qualité mentionnée par Jean. De quoi nous montrer combien nous sommes précieux et spéciaux pour Dieu. Quelle sagesse de la part de notre Créateur qui connaît les travers fréquents de ses créatures, travers d'orgueil d'un côté, travers de rabaissement de l'autre. Serviteur sans mérite particulier, sans mérite personnel, et en même temps collaborateur de Dieu. Voilà ce que nous sommes chacun et chacune. Les qualificatifs vous semblent contradictoires ? Ils pourraient le sembler de prime abord, en effet. Moi, je dis que la sagesse de Dieu est admirable. La sagesse de Dieu est admirable. Et comme il connaît les travers de l'être humain, il fait le nécessaire pour nous en préserver. Ainsi, concernant le verset de Luc 17, verset 10, on a peut-être l'habitude d'une traduction qui dit plutôt « Nous ne sommes que des serviteurs inutiles ». C'est une traduction tout à fait possible du terme grec. Mais pour ce verset, je suis ce coup-ci plutôt d'accord avec l'interprétation de la Bible du Semeur qui dit, comme je l'ai lu, « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite ». Car sans mérite ne veut pas dire sans utilité. Mais plutôt sans prétention de mériter quelque chose, sans prétention de gratification particulière, sans recherche de reconnaissance méritoire que le maître nous devrait ou que les autres nous devraient. Comme le souligne Jésus, ce n'est en effet pas grâce, non, ce n'est en effet pas parce qu'un esclave fait son travail que son maître va lui donner une récompense particulière. Tout est grâce. J'insiste lourdement, mais je crois que Dieu aussi. Tout est grâce, y compris celle de me rendre utile. Quel cadeau de sa part. Quel cadeau de nous rendre utile. Primordial pour moi, en tout cas, de ne pas perdre cela de vue, car cela influera et déterminera sans aucun doute la motivation, l'intention de mes implications, de mes services, de mes actes, de mes pensées, de mes œuvres. Qu'est-ce qui nous motive? Quelle est notre intention profonde? Un commentateur dit d'ailleurs à juste titre que le disciple n'obéisse pas à son Seigneur en vue d'obtenir quelque chose de lui, mais que l'obéissance fait naturellement partie de la vie du disciple. L'obéissance fait naturellement partie de la vie du disciple. On n'en parle peut-être pas souvent de l'obéissance. C'est un terme qui coince un petit peu peut-être. Pourtant, on l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, montre-moi la beauté qu'il y a à t'obéir. En tout cas, Dieu peut effectivement tout faire tout seul. Et bien des fois, quand on regarde l'histoire chrétienne, on se dit qu'il aurait mieux fait de faire tout seul. Dieu peut effectivement tout faire tout seul, et c'est d'ailleurs bien lui qui fait tout seul. Mais j'aime souligner que si c'est Dieu qui fait tout, il en fait souvent une partie à travers nous. C'est Dieu qui fait tout, mais il en fait souvent une partie à travers nous. Choix souverain de sa part, choix souverain de Dieu parfois curieux, selon notre logique humaine. Mais grâce de Dieu de me rendre utile. Grâce de Dieu de donner cette utilité et ce sens à notre vie. Quel bonheur immérité, en effet, pour moi et pour chacun d'entre nous, d'être collaborateur de Dieu. Oui, par pure grâce divine, nous ne sommes pas sans utilité. Alors que, comme déjà dit, à juste titre, Dieu pourrait nous dominer, il ne le fait pas. Alors que Dieu pourrait, à juste titre, et aussi par souci d'efficacité, nous laisser de côté, nous écarter, se passer de nous, il choisit de nous impliquer. Il nous valorise tout en nous montrant devoir rester humbles et à notre place par rapport à lui. Quel étrange Dieu que voilà. Quel extraordinaire et merveilleux Dieu que voilà. L'image a ses limites, mais si vous êtes parent, que vous bricolez, vous jardinez, vous cuisinez, vous passez l'aspirateur, votre petit enfant n'est-il jamais venu un jour avec son petit marteau ou d'autres outils, avec son arrosoir et sa brouette, avec son tablier, ou n'a-t-il pas pris le manche de l'aspirateur que vous aviez posé quelques instants pour lui-même bricoler, jardiner, cuisiner, nettoyer avec vous, pour vous donner un coup de main? Lui avez-vous toujours dit « Dégage, reste pas dans mes pattes, j'ai pas de temps à perdre ». Ou bien par amour pour votre enfant, lui avez-vous donné une petite tâche à faire? Lui avez-vous permis d'entreprendre quelque chose pour qu'il apprenne? Voire même pour effectivement qu'il vous donne un vrai petit coup de main. Certes, peut-être minime, mais dont il sera fier et qui lui permettra de mieux savoir qu'il est précieux à vos yeux. On le fait avec nos enfants, et on ne trouve pas cela infantilisant de notre part ou prétentieux de leur part. Toute proportion gardée, ça ne me choque pas que Dieu fasse pareil. Et même, je trouve ça bien. Je l'en remercie. C'est gratifiant, c'est une marque certaine de confiance de sa part, et ça responsabilise aussi. Et ça peut même avoir son utilité. Oui, en toute humilité, collaborateur de Dieu. Et en plus, moi, je trouve que ça claque sur une carte de visite quand même, non? Oui, vous êtes quoi, François, collaborateur de Dieu? Conscient d'être sans mérite particulier, soyons fiers aussi de ce privilège et construisons avec application la maison de Dieu à son service et avec lui. Et dans ce « avec lui », je vois aussi en filigrane de ce qualificatif qui nous est donné aussi un engagement de Dieu lui-même. Certains ont pu croire par le passé ou d'autres encore aujourd'hui que Dieu s'est désintéressé du monde et du sort du monde après l'avoir créé. Oui, il l'a délaissé pour s'occuper d'autres choses plus importantes, pense-t-il. Mais pas du tout, nous disent ces passages. Si nous pouvons collaborer, œuvrer avec Dieu, c'est bien que Dieu œuvre aussi. Et je pense que c'est rassurant de le savoir quand nous avons l'impression de trimer tout seul, des fois. Peut-être est-ce des fois parce que nous ne collaborons plus vraiment avec lui, ou pas assez, et faisons trop par nos propres forces, nos propres mollets, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, ou nos propres chevaux, nos propres forces, notre propre intelligence. Collaborateur, pas toujours inutile, mais utile à quoi alors? Jean-Paul a déjà rappelé un certain nombre d'éléments que je ne vais pas répéter. J'ai déjà souligné les aspects individuels comme collectifs de l'édification, de la construction de la maison. Ce matin, j'avais à cœur de simplement rappeler, je pense que je l'ai trop vite oublié et pas trop mise en avant, la vision que l'on avait rédigée il y a quelques années concernant notre Église et qui disait « Pour la gloire de Dieu et par son Esprit, avec son Église, nous voulons vivre l'Évangile au quotidien et le partager à notre prochain pour construire ensemble une famille qui rayonne de l'amour, de la justice et de la joie de Christ. » Pour la gloire de Dieu et par son esprit avec son Église, nous voulons vivre l'Évangile au quotidien et le partager à notre prochain pour construire ensemble une famille qui rayonne de l'amour, de la justice et de la joie de Christ. Y sommes-nous arrivés ? Sommes-nous sur le bon chemin ? Nous étions bien dans le souci de l'édification, en tout cas, construire ensemble, avec deux éléments qui me semblent majeurs, vivre l'Évangile et le partager. Là est bel et bien, me semble-t-il, résumer le but de Dieu pour chaque chrétien, pour chaque église locale. En voulant vivre et en vivant effectivement l'Évangile, nous désirons que Dieu œuvre en nous et nous collaborons à l'œuvre de l'Esprit. C'est notre chemin de sanctification. En vivant l'Évangile, nous ne pouvons que vouloir le partager, tant nous découvrons et expérimentons que c'est un trésor extraordinaire à faire fructifier et que tout le monde aussi devrait découvrir et vivre. Tout à l'heure, je parlais d'un verset qui disait que Timothée était collaborateur de Dieu pour l'Évangile de Christ. Je conclus en prenant un autre verset de la deuxième lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique qui dit: au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Paul demande en fait à ce que l'on prie pour que lui et ses collaborateurs soient de bons collaborateurs de Dieu dans le partage de l'Évangile, ce qui ne peut être fait que s'ils vivent effectivement l'Évangile eux-mêmes. Et en priant, oui, aussi en priant, les Thessaloniciens seront non seulement des collaborateurs de Paul, qui le soutiendront spirituellement, mais ils seront aussi des collaborateurs de Dieu, parce qu'en faisant cela, ils vivront eux-mêmes l'Évangile et participeront à son partage. Notre vision, je pense, est bien en écho de ce genre d'exhortation biblique. Chacun a un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Vivre et partager l'Évangile aussi, et ainsi rendre gloire à Dieu. Il nous y aide par sa grâce, car tout est grâce. Amen. Et en guise de prière, je vous propose de chanter le prochain chant, prière de François d'Assise, qui demande à Dieu, notamment, « Seigneur, fais de nous des ouvriers, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs. » Qui relève différentes situations et circonstances où les collaborateurs de Dieu peuvent faire, où nous pouvons faire la différence par sa grâce.